L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette première émission de la série thématique qui va nous occuper pendant tout le mois de juillet. Première émission au cours de laquelle, avec Max Gallo, romancier et historien, et Jean-Louis Bourlange, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, nous recevons François Bujon de l'Étang. François Bujon de l'Étang, bonjour.
Bonjour.
Nous allons avec vous parler de la Turquie, sur laquelle vous avez récemment publié un article remarqué dans la revue des Deux Mondes. La Turquie a récemment occupé à deux reprises le devant de la scène internationale. En mai, elle a conclu un accord avec le Brésil et l'Iran pour un échange d'uranium sur son territoire. Début juin, l'assaut israélien contre une flottille faisant route vers Gaza à l'initiative d'une ONG turque a été violemment condamné par le Premier ministre de ce pays, Erdogan, qui a déclaré, je cite, « L'amitié de la Turquie est précieuse, mais son inimitié est d'autant plus violente ». François Bujon de l'Étang, vous êtes président de Citigroup France depuis 2003, vous êtes membre du Conseil consultatif international de Total et vous êtes également membre des comités de rédaction de la Revue des Deux Mondes et de l'édition française de Foreign Policy. Vous avez été conseiller du Premier ministre pour les affaires diplomatiques, la défense et la coopération, quand ce Premier ministre était Jacques Chirac, entre 1986 et 1988. Et vous avez été ensuite ambassadeur de France au Canada jusqu'en 1991, puis aux États-Unis pendant une assez longue période, entre 1995 et 2002, je dirais même pendant une période exceptionnellement longue, entre 1995 et 2002. Vous avez publié, je le disais tout à l'heure, en septembre 2009, dans la revue des Deux Mondes, un article intitulé « La Turquie entre deux mondes ». Selon vous, deux mouvances idéologiques imprègnent la Turquie contemporaine. D'un côté, l'héritage kémaliste de la République turque, fondée par Mustafa Kemal en 1923, que vous définissez comme un mélange d'occidentalisme, de laïcité, de nationalisme et de populisme, et dont l'armée se porte garante. De l'autre, des pans entiers de l'héritage ottoman, qui semblait avoir été estompé par le kémalisme, l'islam, l'ambition de jouer un rôle de puissance régionale, voire globale, les revendications minoritaires et le problème kurde. Ces forces nouvelles s'incarnent en partie dans la démocratie musulmane, aujourd'hui représentée par M. Erdogan. La lutte entre le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP de M. Erdogan, et l'establishment kémaliste soutenu par l'armée a été manifeste lors de la mise à jour entre 2007 et 2009 d'un réseau kémaliste Ergenekon, accusé de conspiration contre l'État et constitué d'intellectuels, de militaires et de personnalités des médias. La Turquie est également divisée par sa relation avec l'Europe et les États-Unis, héritier du désir de rapprochement avec l'Europe dont vous décrivez qu'il est une constante de la politique turque depuis Mustafa Kemal, M. Erdogan a fait de la candidature de la Turquie à l'Union européenne une priorité. Si la Grande-Bretagne y est favorable, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel y sont opposés. Et après l'opposition à la politique menée par l'administration Bush et malgré le discours de Barack Obama à Ankara en avril 2009, les tensions entre les États-Unis et la Turquie ont été ravivées après le récent accord avec l'Iran et le Brésil que je citais en introduction. Dans l'article dont vous êtes l'auteur, vous dites « L'État et le corps social turc s'attachent à réaliser une synthèse difficile plutôt qu'à opérer des choix radicaux ». Il ne s'agit pas de choisir entre le kémalisme et la démocratie musulmane, mais bien de concilier et de faire coexister les deux. De même, la diplomatie turque évitera-t-elle de choisir entre l'Europe et la tentation néo-ottomane et s'efforcera de combiner les deux dimensions. Pensez-vous, François Bujon de l'Étang, que l'ancrage occidental de la Turquie soit irréversible ?
C'est presque par la fin que vous commencez, puisque c'est une conclusion qu'il faudrait tirer d'une longue analyse. D'abord, il faut dire que l'ancrage de la Turquie dans le monde occidental était la volonté politique de Mustafa Kemal. C'est ce qui l'a guidé à partir du moment où il a créé la République turque en 1923. Il a eu cette idée directrice pour moderniser la Turquie. Il fallait l'ancrer dans le monde occidental et en faire une espèce de démocratie dirigée, comme au fond l'Occident en avait connu à la fin du XVIIIe siècle. Je crois qu'on peut assez bien comparer son système de gouvernement avec celui des despotismes éclairés de la fin du XVIIIe siècle. Donc, ancrage dans l'Occident. Et cet ancrage dans l'Occident, il a été reconfirmé, si j'ose dire, par les événements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie s'est prudemment cantonné au rôle d'observateur neutre pendant la plus grande partie de la Seconde Guerre mondiale et a eu le bon goût de déclarer la guerre à l'Allemagne en février 1945, quelques mois avant l'effondrement définitif de l'Allemagne. Ceci l'a placé dans le camp des vainqueurs, ipso facto. Et comme elle était menacée à ses frontières par une Union soviétique qui poussait son avantage en direction de la mer Noire et en direction de quelques districts turcs contestés, elle s'est trouvée immédiatement bénéficier de l'aide Marshall, positionnée dans le camp des vainqueurs et disposant d'une garantie militaire que lui a donnée l'Amérique du président Truman. Elle est entrée dans l'OTAN par la suite, ce qui était tout à fait logique. Elle était profondément ancrée dans le camp occidental. Elle l'est restée et elle a franchi un pas de plus lorsqu'elle a décidé, à partir des années 1960, très exactement en 1963, de commencer à négocier avec ce qu'on appelait encore la communauté européenne à l'époque pour un processus qui devait, dans l'esprit de tous ceux qui s'y sont prêtés, mener ultérieurement à l'adhésion. Donc, elle y appartient profondément. Maintenant, la géographie est ce qu'elle est, l'histoire est ce qu'elle est, et par sa géographie et par son histoire, la Turquie appartient au Moyen-Orient et appartient à l'Asie mineure. Et aujourd'hui, elle se trouve être gouvernée par un parti que l'on appelle en Occident islamiste modéré, je utilise cette expression dans des guillemets invisibles, expression que récusent d'ailleurs M. Erdogan et les membres de l'AKP qui ne l'aiment pas, mais elle est dirigée par un parti que nous pouvons appeler peut-être conservateur musulman, plus exactement, qui revient aux valeurs fondamentales de l'islam, qui ont toujours fait partie de la société turque, et qui donne l'impression de trouver à sa diplomatie de nouvelles dimensions en dehors de l'Europe, en dehors de l'OTAN, en menant une politique que l'on qualifie souvent de néo-ottomane, et qui lui permet de déployer ses très grands talents diplomatiques dans l'univers qui a traditionnellement été le sien. Donc elle est entre deux mondes, effectivement. Le monde ottoman qui a été le sien pendant des siècles, et qui l'amène à vouloir jouer très légitimement un rôle de puissance régionale au Moyen-Orient et en Asie mineure, et dans l'Occident auquel elle appartient par ses alliances, par ses relations économiques et très largement par son système politique.
Vous avez précisé que M. Erdogan et ses amis politiques n'aiment pas l'appellation d'islamiste modéré. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans islamiste modéré? Modéré ou islamiste?
Il ne conteste pas l'appellation d'islamiste. Il trouve que islamiste modéré ne veut rien dire, puisque islamiste dans leur esprit, c'est simplement d'être fidèle aux enseignements et à la doctrine de l'islam. Donc on ne peut pas être fidèle de façon modérée. Je pense que c'est cela qu'il récuse probablement.
C'est Poincaré, le slogan de Poincaré en 1928, républicain modéré, mais pas modérément républicain. On pourrait dire islamiste modéré, mais pas modérément islamiste.
Voilà. Max Gallo.
Oui, je crois que Erdogan et ses proches, quand il tente de nous faire comprendre ce qu'est l'AKP, ils prennent comme référence la démocratie chrétienne. Et en disant, oui, nous sommes au fond l'équivalent musulman de ce qu'a été la démocratie chrétienne, nous sommes aussi démocrates que l'a été la démocratie chrétienne, voilà notre modèle. Ce qui soulève chez moi un très grand scepticisme, parce que, et je me réfère à ce que vous avez dit en ouvrant votre, vous avez écrit en ouvrant votre article « La Turquie entre deux mondes », les États ont la politique de leur géographie, la superficie de la Turquie c'est 780 576 km², la Turquie d'Europe c'est 23 378 km², avec une population de 7 millions d'habitants sur un total, pour ce qui est de la population totale turque, de près de 75 millions d'habitants. Oui. Donc, la force de la gravité géographique, pour moi, enracine la Turquie dans le monde musulman. Et la question que je vous pose, c'est, parce qu'on parle, au fond, pour qualifier la modernité de la Turquie kémaliste, on parle souvent de la laïcité. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez de cette laïcité, parce que telle que je l'ai connue, enfin, en lisant quelques articles, il me paraît que c'est une laïcité très particulière qui s'exerce dans le cadre d'une religion unique qui est l'islam. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une caricature? C'est-à-dire, je crois, la laïcité comme cep turc exige la séparation de l'Église et de l'État. L'armée est autonome, par exemple. Et en même temps, la laïcité s'applique dans un univers islamique. C'est la seule religion reconnue. Donc c'est une laïcité très particulière. Est-ce qu'il n'y a pas là une illusion de notre part, je prolonge, et une illusion aussi qui est en train de se dissiper sur la volonté réelle de la Turquie d'entrer dans l'Union européenne.
François Bujon de l'Étang.
Alors, la question que pose Max Gallo est très intéressante, celle de la définition de la laïcité turque, qui est effectivement un des points cardinaux, n'est-ce pas, du système turc actuel, tel que Kemal l'a établi. Cela doit se comprendre aussi en réaction à ce qu'était la situation antérieure. Dans l'Empire ottoman, il y avait un califat. Et le sultan était le commandeur des croyants. Et en réalité, il était soumis à l'Église et il écoutait les enseignements des oulémas, n'est-ce pas ? L'une des premières mesures adoptées par Kemal Atatürk a été d'abolir le califat et de proclamer le principe de la laïcité de la République. Ça voulait dire qu'il voulait une séparation de l'Église et de l'État, ce que nous pouvons fort bien comprendre, et qu'il entendait que l'Église, qui n'est pas organisée, comme vous le savez bien, d'une façon aussi hiérarchique que chez nous, obéisse et soit contrôlée par l'État. Je crois que c'est une des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le système de la laïcité turque, toutes les institutions religieuses, toute la hiérarchie religieuse est dûment contrôlée par l'État et par le parti au pouvoir. C'est cela la laïcité turque, très largement. Et c'est également le fait que, bien sûr, il y a une religion dominante. Ce n'est pas une religion d'État, mais c'est une religion dominante, très dominante. Il y a une protection qui est accordée aux minorités religieuses, ce qui d'ailleurs était le cas dans l'Empire ottoman. C'est une grande tradition ottomane qui a été poursuivie. Mais l'enseignement, par exemple, est un enseignement public. La Turquie, finalement, avec la France, est un des rares pays à interdire le port du voile islamique à l'école.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, enfin, l'enseignement religieux est à la fois obligatoire et défini par l'État.
C'est donc contrôlé par l'État.
On est effectivement dans une situation qui est une situation de subordination des églises, enfin, à l'État. Beaucoup plus, je crois que c'est quand même quelque chose que les Français ont du mal à percevoir quand on parle de laïcité, beaucoup plus dans une situation de pluralisme religieux et de neutralité de l'État. Et notamment le clergé catholique, c'est une tolérance, ce sont des niches. On a un pluralisme contrôlé, tempéré. On n'a pas du tout une espèce d'égalité fondamentale de toutes les religions face à l'État. Je crois que c'est une distinction que vraiment nous avons du mal à admettre. Mm-hmm. Je voudrais reprendre votre analyse, enfin à la fois l'analyse, la présentation de votre article, la Revue des Deux Mondes, qu'a fait Philippe Meyer, et sur l'équilibre entre les deux pulsions, les deux tentations fondamentales de la Turquie. On pourrait d'ailleurs dire trois aussi, parce que géopolitiquement, il y a une tentation vers l'Asie centrale, une tentation vers le Moyen-Orient et une tentation européenne. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui se passe depuis 2-3 ans, depuis que Erdogan, avec énormément de talent, moi je suis, comme vous, je pense, un très grand admirateur des qualités politiques du Premier ministre turc, même si je méfie pas mal de choses dans ses initiatives, mais depuis qu'il a eu ce grand succès aux élections générales, qu'il a gagné son pari, qu'il s'est imposé, que l'AKP s'est imposé comme la force dominante, il me semble que le point d'équilibre se déplace très sensiblement et de façon assez préoccupante. Je donnerai comme exemple évidemment la modification de l'attitude internationale avant même l'affaire de Gaza, qui a effectivement mis carrément le feu aux poudres entre Israël et la Turquie. On a eu quand même à Davos une agression, enfin une lutte très forte, une mise en cause très forte de Shimon Peres par le Premier ministre turc qui s'est retiré. Enfin, on s'est retiré d'un colloque, on ne se retire pas d'un colloque, et qui a été d'ailleurs acclamé dans son pays pour cette manifestation d'indépendance. Il a également, je donne cet exemple, accueilli avec beaucoup de faveur le régime soudanais et déclaré que le chef d'État du Soudan, qui est quand même poursuivi devant des juridictions internationales, ne pouvait pas être mauvais puisqu'il était musulman. Donc il y avait une espèce de tautologie. Donc ça, ce sont des marques marque quand même de très grandes ruptures par rapport à l'opinion, surtout la seconde d'ailleurs, par rapport à l'opinion dominante en Europe. Et sur le plan interne, je trouve que ce qui se passe autour du prétendu complot Ergenekon, qui est quand même quelque chose de très très bizarre, parce que c'est un complot dont il y a manifestement une société hyper kémaliste, nationaliste, un peu conspirative, mais qui ne paraît pas s'être livrée à des choses extravagantes, et ça entraîne une série de procès à géométrie variable, mettant en cause des centaines d'accusés, aboutissant à une véritable chasse aux sorcières, portant à la fois sur l'armée, sur la magistrature et sur l'université, qui étaient donc les trois bastions du kémalisme. Alors tout ça, plus une modification, mais là on comprend très bien, une modification institutionnelle, puisque on va faire la Ve République, si je puis m'exprimer ainsi, en Turquie, on va faire élire le président au suffrage universel, ça va sans doute aussi développer un peu des courants un peu populistes, très logiquement. Est-ce que vous ne pensez pas que l'équilibre est en train de se rompre? J'aurais dû ajouter, et je le fais maintenant, j'aurais dû ajouter les difficultés que nous avons dans les relations européennes. Et là, sans doute, l'Europe porte-t-elle une part de responsabilité, puisque à travers Merkel et Sarkozy, elle a opposé, sinon une fin de non-recevoir, du moins, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous traînons les pieds devant la perspective d'intégration. Ce que je comprends d'ailleurs parfaitement pour des raisons qui sont précisément celles que nous analysons aujourd'hui. Mais est-ce que le point d'équilibre, est-ce que l'équilibre n'est pas en train de se rompre entre les deux mondes qui sont entre lesquels traditionnellement la Turquie cherche à s'organiser.
François Buchon de l'Étang.
Eh bien, mon Dieu, c'est une grande question, et c'est une question très légitime, comme d'ailleurs celle que vous posiez, Philippe Meyer, au début de cette émission, sur la permanence de l'ancrage de la Turquie au sein du monde occidental. Les deux sujets, vont un peu ensemble, effectivement. Moi, j'aurais tendance à répondre, la réponse courte à la question de Jean-Louis Bourlange, et de dire l'équilibre s'est sensiblement modifié depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP et de M. Erdogan en 2002, donc il y a 8 ans, parce que M. Erdogan et l'AKP ont gagné un certain nombre d'épreuves de force ou de bras de fer avec les militaires kémalistes. Au fond, nous sommes dans une phase de l'histoire politique turque que l'on pourrait appeler une transition post-kémaliste, dans laquelle M. Erdogan fait avancer les intérêts de son parti conservateur musulman au détriment de ceux de l'armée gardienne du kémalisme. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Alors depuis 2002, il a marqué un certain nombre de points très forts, notamment l'épreuve de force qu'il a eue au moment des élections de 2007, n'est-ce pas ? La réforme constitutionnelle, sa décision de dissoudre l'Assemblée, le refus des militaires kémalistes d'avoir M. Abdullah Gül comme président de la République, qui leur paraissait une menace à la laïcité. Tout ceci a été imposé par la décision d'Erdogan de dissoudre l'Assemblée nationale, le fait qu'il y a gagné une majorité beaucoup plus importante que sa première majorité, qu'il a imposé l'élection d'Abdullah Gül à la présidence de la République et qu'il a pris tous les leviers de contrôle. Depuis lors, effectivement, l'affaire Ergenekon est sortie. C'est une affaire particulièrement nébuleuse, tout à fait intéressante, dont il faut surtout retenir qu'elle fait apparaître le visage le plus sombre, le plus obscur de l'armée et de l'État kémaliste, ou ce que l'on appelle l'État profond dans les systèmes turcs, c'est-à-dire les connexions entre les forces mafieuses, l'armée, les services secrets, etc. Et que tout ceci a joué au détriment de l'armée qui a perdu une grande partie de son crédit. C'est d'ailleurs un élément tout à fait intéressant et très facile à mesurer, est le fait que l'armée, en 2007, au moment de l'épreuve de force, n'est pas sortie de ses casernes. Il y a, comme vous le savez, une tradition de coup d'État dans l'armée turque qui a toujours été considérée ou qui s'est considérée elle-même comme la garante de la survie de l'État. Il y a eu 3 coups d'État récents, en 1960, en 1971, en 1980. Donc c'est un système qui rappelle le système d'Amérique latine. Et au fond, on aurait pu concevoir, au moment de l'épreuve de force sur l'accession d'Abdullah Gül à la présidence de la République, que l'armée sorte de ses casernes et fasse un nouveau coup d'État. Elle ne l'a pas fait. elle ne l'a pas fait et elle a respecté le processus de l'égalité constitutionnelle. Alors, oui, il ne fait pas de doute que, au fil des années, Erdogan a fait avancer son contrôle de l'État turc au détriment des militaires et au détriment du kémalisme dont l'héritage apparaît singulièrement en décadence. Alors, au-delà, il est difficile d'aller plus loin parce qu'on entre dans le domaine des conjectures et de la controverse politique. Les tenants du kémalisme accusent M. Erdogan d'avoir ce qu'ils appellent un agenda caché, c'est-à-dire de nourrir l'ambition d'imposer l'islamisme pur et dur en Turquie à la faveur des réformes qu'il mène en se servant de tout, y compris de la candidature turque à l'Union européenne, qui permet de démembrer un certain nombre d'institutions héritées du kémalisme. C'est d'ailleurs, je fais ici une légère digression pour dire, c'est un point dont on pourra parler plus tard si vous le souhaitez, mais on ne mesure pas en Occident à quel point le fait d'instruire la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne permet au gouvernement turc de démembrer le kémalisme et de l'affaiblir. Et en dékémalisant la Turquie, elle l'islamise. Autrement dit, c'est un paradoxe. En nous prêtant à cette négociation et à ce qu'elle avance, nous aidons le gouvernement islamiste modéré, toujours entre guillemets, en Turquie, à dékémaliser et à islamiser la société turque. Bien. Mais tout ceci pour dire
vous
que...
Vous pourriez préciser quand même, est-ce que moi je suis d'accord avec cette analyse, oui. Mais quel est le cheminement parce que l'Union européenne se méfie de l'institution militaire ou...
Non, parce que l'Union européenne impose un certain nombre de critères, les critères dits de Copenhague, aux nouveaux candidats, n'est-ce pas ? On demande aux nouveaux candidats de répondre à un certain nombre de critères démocratiques. Alors ça concerne la justice, la police, le respect des libertés publiques, le code pénal, tout ce que vous voudrez. Et si vous prenez, par exemple, je ne veux pas devenir trop technique, mais la négociation d'adhésion de la Turquie, il y a 35 chapitres de négociations qui ont été définis par Bruxelles. Et c'est comme une course de haies ou une course d'obstacles. Le candidat doit répondre aux 35, franchir les 35 haies, si vous voulez. Il y en a 12 qui ont été ouverts. Un seul chapitre a été provisoirement clos. 18 sont bloqués par un certain nombre de difficultés. Et il reste 4 chapitres qui peuvent encore être ouverts. Mais au fond, toutes les réformes faites ces dernières années par l'État turc l'ont été à la demande de Bruxelles. La réforme du code pénal, l'abandon, par exemple, de l'abrogation de la peine de mort. Enfin, on pourrait continuer comme ça. Mais tout ce qui touche au chapitre des libertés publiques et fondamentales est touché par les exigences posées par l'Union européenne pour la procédure d'adhésion. Donc, au fond, M. Erdogan, quand il dit que c'est l'axe cardinal de sa politique, poursuit en réalité deux objectifs. L'une, c'est effectivement d'aider à la modernisation de son pays, à la modernisation des institutions turques. Il se sert de la demande d'adhésion comme d'un levier pour moderniser la société turque. Et beaucoup des réformes qu'il a introduites sont des réformes qui se sont faites contre la volonté des kémalistes, contre la volonté des militaires, et qui l'aident à obtenir ou à s'assurer d'un plus grand contrôle sur la société turque. Et puis le second objectif qu'il poursuit, c'est bien entendu d'entrer dans l'Union européenne, parce qu'il y voit toutes sortes d'avantages économiques et politique.
Alors revenons cette parenthèse fort instructive.
Mais c'est une dialectique en fait, fort intéressante mais et pas très souvent analysée en Europe.
Très rarement analysée et merci de nous l'avoir signalé. Mais vous n'aviez pas tout à fait terminé, je crois, sur la transformation de l'équilibre entre les deux tendances turques.
Oui, parfaitement. Je reviens à cela. La transformation de l'équilibre, elle s'accentue avec l'affirmation de la Turquie comme puissance régionale, au fond. La Turquie a pendant longtemps mené une politique étrangère qui était celle d'un pays membre de l'OTAN, candidat à l'adhésion européenne, etc., etc. Elle mène aujourd'hui une politique beaucoup plus ambitieuse à l'instigation d'un personnage qui est très intéressant, qui est le ministre des Affaires étrangères actuel de la Turquie, M. Ahmet Davutoğlu, qui a écrit d'ailleurs en 2001 un livre très intéressant qui s'appelle « Profondeur stratégique » et qui définit ce qu'est la politique néo-ottomane. L'idée est toute simple, elle consiste à dire que la Turquie se meut dans un espace qui est à la fois son espace historique historique et géographique naturelle et qu'elle doit en tirer tous les avantages, qu'elle doit déployer sa diplomatie dans cet espace qui inclut en effet non seulement l'Europe, mais l'Asie orientale, le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Et on a vu se déployer au fil de ces dernières années une politique qui la rapproche beaucoup d'un certain nombre de forces islamistes. Aujourd'hui, ce que l'on voit de la façon la plus spectaculaire, c'est le rapprochement de la Turquie avec le Hamas, par exemple, ou avec l'Iran de M. Ahmadinejad, à travers la dernière négociation. Et c'est là qu'on peut voir le point, le curseur se déplacer d'une façon qui peut inquiéter. La rupture avec Israël, qui apparaît au lendemain de l'épisode récent de l'arraisonnement de la flottille au large de Gaza, comme pratiquement consommée, est très intéressante en elle-même. Pendant très longtemps, la Turquie, pays membre de l'OTAN, pays occidental, etc., a entretenu des relations assez étroites avec Israël. Elle a été, au lendemain de la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, le premier pays musulman à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Et par la suite, les militaires kémalistes qui étaient au pouvoir ont commencé à développer, sur un terrain très concret, une politique de coopération assez étroite avec les militaires israéliens. Et ceci a continué pendant longtemps. Le point tournant, c'est celui que vous avez dit, c'est en réalité l'épisode de janvier 2009, c'est-à-dire l'opération plomb durci, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le code israélien, oui, à Gaza. L'usage de la force, très spectaculaire, très excessif aux yeux de beaucoup, dans l'opération de Gaza en janvier 2009, les milliers de morts et tout ceci, a entraîné une violente condamnation de la Turquie. Et notamment, il semble que M. Erdogan ait personnellement été ulcéré de ne pas avoir été averti par les Israéliens de l'imminence et de la préparation de l'opération à Gaza en janvier 2009. Il en a réprouvé l'excès, ce qu'il a qualifié d'excès, mais il a probablement très mal vécu que son pays, malgré les relations militaires étroites avec Israël, n'ait pas été du tout inclus dans la boucle des conversations avant la préparation. Davos, l'épisode de Davos dont Jean-Louis Bourlange a parlé était effectivement très éclatant. Monsieur Erdogan est parti en claquant la porte après une altercation publique avec le président de la République israélienne, Shimon Peres. Et depuis lors, la relation s'est tendue de façon tout à fait considérable. Ce qui s'est passé au début du mois de juin au large de Gaza est encore beaucoup plus flagrant, puisque là, il y a mort d'homme, il y a des morts turcs, ce sont très largement des Turcs qui ont été tués, et l'opération avait été préparée par une organisation humanitaire islamiste, d'ailleurs, qui s'appelle l'IHH, qui a commandité cette opération. Donc la Turquie est effectivement aux premières loges. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la diplomatie turque, à travers cette dimension néo-ottomane, recherche en effet plusieurs objectifs. Devenir une puissance régionale reconnue au Proche et au Moyen-Orient, et sans doute prendre le leadership du monde sunnite face au monde chiite qui, lui, regarde évidemment vers Téhéran. Il est clair qu'aujourd'hui, après l'incident de Gaza, M. Erdogan est un héros dans la rue arabe et que la Turquie jouit d'un prestige dont plus aucun pays arabe ne dispose. Ni l'Égypte, ni l'Arabie saoudite, qui ont longtemps prétendu au leadership du monde sunnite, ne disposent aujourd'hui dans la rue arabe du prestige dont dispose la Turquie.
Oui, après cette remarquable analyse, c'est-à-dire une analyse que je partage, il y a peu de choses à dire, sinon pour marquer la cécité ou la naïveté des laudateurs de la Turquie devant le démantèlement de ces institutions que vous avez mentionnées au nom de la démocratie, etc., ce qui était en fait renvoyé le point d'appui militaire du kémalisme dans les casernes, le démanteler et renforcer en effet l'islamisme de M. Erdogan. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je ne crois pas que ce soit simplement par vexation. D'ailleurs, vous avez cité à juste titre le livre du ministre des Affaires étrangères sur la profondeur de la stratégie. Il y a donc réellement un plan concerté, et ça n'est pas un reproche, ce n'est pas du tout une vision qu'on peut de complot de l'histoire, c'est qu'il y a là, en effet, de grands politiques qui ont interprété, je crois, de façon très claire, le changement des rapports de force à l'échelle mondiale et particulièrement régionale. J'en veux pour preuve, personne ne l'a cité, je crois, le fait qu'en 2003, ils ont refusé le passage aux troupes américaines Absolument. Qui se dirigeaient par l'Irak, ce qui montrait qu'ils avaient non seulement une vision régionale, mais ils étaient capables de s'opposer à leurs protecteurs jusqu'alors, c'est-à-dire les États-Unis, prenant en compte le changement de rapport de force. Et je crois que nous sommes à ce point, c'est-à-dire où nous nous trouvons en face d'une Turquie qui non seulement, comme vous l'avez très justement dit, veut être une grande puissance régionale, mais veut devenir, au fond, prendre la place de l'Égypte. D'une certaine manière, qui a ses propres problèmes. Et la Turquie est bien mieux placée à la fois sur le plan de sa structure sociale, de son dynamisme démographique, de ses institutions, de sa tradition prussienne, je dirais, au sein du monde islamique, que l'Égypte, qui est en difficulté, ne fût-ce que parce qu'elle a les frères musulmans, ou bien tout simplement parce qu'elle est au contact direct, frontalier, avec Israël. Je trouve très important le fait des rapports avec le Soudan, vous l'avez dit, mais la médiation conduite par le Brésil, la Turquie et pour les questions nucléaires à l'Iran montre bien l'ambition de cette politique. Oui, oui. Et je crois, contrairement à ce qu'il sait Jean-Louis Bourlange, que les ont été lucides en Europe ceux qui ont été très réticents à l'égard de l'entrée de la Russie, de la Turquie dans l'Union européenne, c'est-à-dire Angela Merkel et Nicolas Sarkozy.
François Béjon de l'État.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Max Gallo et en profiter pour préciser quelque chose que nous n'avons pas encore dit, qui est l'aspect réformateur de l'AKP et du régime Erdogan. Mais à propos de ce qu'a dit Max Gallo...
Dernière question. Oui. Vous savez qu'on cite toujours à propos d'Erdogan, enfin je veux une confirmation, une phrase qui est trop belle pour être tout à fait vraie. Erdogan aurait dit « Les flèches de nos minarets sont nos baïonnettes et les coupoles de nos mosquées sont nos casques ».
Oui, oui. Je connais cette citation. Je ne sais pas si elle est apocryphe.
Moi non plus, je ne sais pas si elle est trop belle pour être vraie.
Non, mais pour revenir à ce que vous avez dit, il y a tout l'aspect, effectivement, turco-américain, de la relation turco-américaine. Nous avons dit, alliés fidèles au sein de l'OTAN, etc., l'armée turque est une armée très importante dans le dispositif occidental. Voilà un pays qui consacre une partie de ses ressources à la défense. Voilà un pays qui a des vertus guerrières reconnues depuis très longtemps. Et l'armée turque, non seulement une force politique très importante, mais est une force militaire très réelle, et qui a d'ailleurs été éprouvée sur le terrain... Notamment, nous en parlions juste avant cette émission, pendant la guerre de Corée, où les Turcs se sont battus de façon exemplaire. Mais la relation turco-américaine est une relation qui connaît des hauts et des bas, et qui a de temps en temps, effectivement, disons, des hoquets. Ça a été tout à fait le cas, pour des raisons de politique générale, en 2003, au moment de la décision de l'administration Bush d'intervenir contre l'Irak et d'envahir l'Irak, effectivement. Cette décision a été blâmé ouvertement et publiquement par le gouvernement de M. Erdogan, qui a désapprouvé l'intervention en Irak et qui a tenu à s'en dissocier. Et qui, sur le plan très concret, a pris la décision d'interdire aux forces américaines d'utiliser les bases en Turquie comme base de départ pour l'opération militaire turque, a interdit les survols de la Turquie et n'a pas autorisé les Américains à utiliser la base d'Incirlik, qui est une base extrêmement importante. La raison qui l'a conduit était une raison d'équilibre général des forces au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a une raison générale et une raison particulière. La raison générale, c'est que le gouvernement turc estimait qu'il était une erreur dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient de détruire l'Irak de Saddam Hussein. Et effectivement, il a très bien vu le cadeau que ceci constituait pour les Iraniens, par exemple, et le risque de déséquilibre de la région moyenne-orientale qui, effectivement, s'est vérifié dans les années qui ont suivi. Il avait une autre raison, plus authentiquement turque, je veux bien dire. C'est qu'il craignait que les Kurdes d'Irak ne s'affirment en un État indépendant et ne transforment leur autonomie de facto en une véritable indépendance qui ne manquerait pas, bien entendu, d'avoir des répercussions très très graves sur l'unité de la Turquie, déjà aux prises avec des rebelles kurdes dans le sud-est du pays. Donc ces deux raisons l'ont amené à se dissocier complètement de l'opération irakienne. Et par la suite, les relations avec l'administration Bush sont restées extrêmement tendues dans toutes les années qui s'en sont suivies. Elles n'ont commencé, au fond, à se détendre qu'avec l'élection du président Obama, qui a d'ailleurs eu la sagesse de se rendre très tôt à Istanbul, de faire sa première visite dans le monde musulman en Turquie et de prononcer à Istanbul le premier de ses grands discours à destination du monde musulman. Et on a assisté à un certain réchauffement de la relation turco-américaine. Tout ceci démonétise en quelque sorte l'importance de la relation avec Israël, car cela peut paraître paradoxal, mais Israël a pu être, à certains égards et à certains moments, un intercesseur pour la Turquie auprès des Américains ou même auprès des Européens. À partir du moment où la Turquie s'affirme, devient une grande puissance, a une relation de confiance avec les États-Unis, elle a moins besoin d'intercesseurs, et ceci a joué dans le même sens que tout ce que nous avons dit précédemment à propos d'Israël. Et je voudrais, si vous permettez, Philippe, ajouter quelque chose dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent. Nous avons parlé de l'aspect islamiste, modéré ou pas, de l'AKP, mais nous n'avons pas parlé de son aspect réformateur. Et je crois que c'est extrêmement important parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est l'AKP. L'AKP est certes un parti islamiste et un parti conservateur, dans la mesure où il permet à toutes les valeurs islamiques qui avaient été mises sous le boisseau pendant la période kémaliste, mais qui n'avaient pas disparu, de sortir de cet éteignoir et de s'affirmer au grand jour. Ça, c'est un très grand aspect. Mais par ailleurs, il est le continuateur de la politique de réforme et de libéralisme économique du centre droit turc des années 80 et 90. Avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2002, nous avons eu en effet pendant toutes les années 90 M. Turgut Özal, qui n'était pas un islamiste, mais qui était un authentique réformateur, qui a été Premier ministre puis Président de la République. Et ses successeurs, Mme Tansu Çiller et puis M. Yermaz, ont poursuivi son œuvre, qui a été une œuvre, de libéralisme économique et de réforme de la Turquie. Et l'AKP a bénéficié de cet effort pour se glisser en quelque sorte dans la continuation, dans les chaussures de ces partis de centre droit, et pour poursuivre une politique de libéralisme et de développement économique qui a donné de très grands résultats. Aujourd'hui, la Turquie est un des pays émergents dont on parle le plus. C'est un marché de 75 millions d'habitants qui a développé son infrastructure, qui a enrichi ses classes moyennes, qui a amélioré considérablement la qualité moyenne de l'éducation, qui dispose d'un réseau routier, qui dispose d'un système bancaire très solide et très compétent et qui fait très largement l'admiration du monde européen. Par son taux de croissance. Il a souffert, bien entendu, comme tout le monde, de la récession, notamment en 2009. Il est en train de rebondir, le chômage diminue, l'inflation a été jugulée. Bref, la Turquie est un pays qui compte. Et c'est une des choses qu'il faut, je crois, souligner, parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle explique parfaitement les ambitions de politique étrangère de M. Erdogan. On ne peut devenir une puissance régionale que si l'on dispose d'une économie florissante. C'est son cas. Ce n'est pas celui de M. Ahmadinejad, par exemple. Et son insertion dans le monde globalisé est très très forte grâce à un commerce extérieur important et à un volume d'investissements étrangers qui est tout à fait considérable. Donc je crois que c'est très important. Et l'autre aspect qui est très important, c'est que cela tempère l'islamisme. Au fond, l'islamisme de M. Erdogan peut faire peur en Occident, et beaucoup de Turcs partagent la crainte exprimée tout à l'heure par Jean-Louis Bourlange que le curseur ne soit allé tellement loin que la Turquie ne soit en train de basculer dans le camp islamique. Mais en même temps, c'est un pays qui est démocratique et qui fait de très grands progrès économiques.
Alors, en même temps, politiquement, vous avez beaucoup présenté là, M. Erdogan comme un homme, au fond, très, très bien installé sur des bases durables et sur des succès solides. Le dernier en date, je pense, étant celui de l'inflation, qui en a fait longtemps été le point le plus faible de la situation turque. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire de l'opposition kémaliste qu'elle a évolué parallèlement et d'une certaine manière, au fond, on n'est jamais opposant. On n'est pas opposant, on ne peut pas être opposant tout seul. Donc est-ce qu'elle a bénéficié de l'évolution de son adversaire? L'actuel leader des kémalistes, dont le nom est pour moi un peu imprononçable, mais vous nous sortirez de cette impasse, j'en suis sûr. Son prénom est facile, il s'appelle Kemal. Mais c'est l'homme qui a failli quand même remporter la mairie d'Istanbul.
Tout à fait, en 2009.
Oui. En 2009, donc il y a peu de temps. Et nous sommes là à un an des prochaines élections législatives en Turquie. L'atout personnel de ce leader des kémalistes et son honnêteté. La faiblesse, je crois, de l'AKP, c'est celle de la corruption. Et est-ce que, au-delà de cette différence et de cette particularité personnelle du leader des kémalistes, est-ce qu'il y a une évolution du contenu de la politique des kémalistes et éventuellement, derrière eux, de la partie de l'armée qui continue à les soutenir ?
Mais vous touchez du doigt un des points les plus intéressants de la politique intérieure turque pour l'instant. C'est qu'au fond, l'une des raisons de la faiblesse actuelle des kémalistes, c'est qu'ils n'ont pas su développer un projet alternatif par rapport au projet de modernisation et d'européanisation mis en avant par M. Erdogan et par l'AKP. L'entrée dans l'Union européenne, l'occidentalisation de la société qui va, enfin des institutions plus exactement, qui va avec, sont quand même une ligne directrice. Et en même temps, la réaffirmation en parallèle des valeurs de l'islam, c'est ce paradoxe turc qui fait qu'ils ne choisissent pas entre deux voies qui paraissent inconciliables, ils cherchent à les concilier. Tout ceci a, disons, dessiné une espèce de projet de société qui a été jugé suffisamment attractif par les électeurs turcs pour que ceux-ci reconduisent avec éclat l'AKP en 2007. Face à cela, les kémalistes sont sur une ligne défensive. Ils veulent défendre la laïcité, ça c'est très compréhensible et c'est très bien. Ils ont un certain nombre de lignes rouges en politique étrangère et en politique internationale. Chypre, par exemple, la défense de la République Chypre-Nord est une des lignes rouges que personne n'a osé franchir parce qu'elle déclencherait certainement une forte réaction des militaires kémalistes. Mais les kémalistes n'ont pas défini un projet de société alternatif au projet nouveau, finalement, dont l'AKP est porteur. Et le parti politique qui était le parti kémaliste, qu'on appelle le CHP, était un parti en très mauvais état pendant toutes ces dernières années. Il a passé de nombreuses années empêtré dans des scandales politico-financiers, des affaires de corruption. Son leader, qui s'appelait M. Baïkal, était particulièrement compromis et il a fini par céder le pouvoir à la suite d'une énième affaire. Et voilà que d'un seul coup, nous avons une nouvelle donne politique. Le jeu politique apparaît beaucoup plus ouvert parce que le CHP vient de se doter d'un nouveau chef, dont vous n'arrivez pas à prononcer
non,
le nom.
Non, je m'y suis forcé, mais plutôt que de me ridiculiser...
Mon Turc n'est pas parfait, mais il s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu. C'est un personnage qui jouit d'un réel crédit moral, parce qu'il n'a pas été mêlé à des affaires de corruption. Il a été un candidat très impressionnant à la mairie d'Istanbul, en effet, en 2009. Il a échoué de très peu. Il est crédible, il va réorganiser le parti CHP et puisque l'échéance électorale n'est qu'en 2011, il dispose à peu près d'un an pour mettre, si j'ose dire, ses troupes en ordre avant d'affronter l'AKP qui sera, lui, usé quand même par 9 ans de pouvoir. Et d'ailleurs, l'une des questions que se posent les observateurs de la politique turque aujourd'hui est de savoir si l'échéance électorale sera respectée ou si M. Erdogan n'aura pas la tentation d'avoir recours à une dissolution anticipée, de façon à forcer des élections qui interviendraient alors, avant que M. Kılıçdaroğlu n'ait eu le temps de réformer profondément son parti et d'en développer la plateforme. C'est une des interrogations de la politique intérieure turque actuelle.
Jean-Louis Bourlan.
Oui, en fait, quand on vous écoute, les Français, je crois, ont du mal à percevoir, c'est le véritable paradoxe, à savoir que les kémalistes sont à la fois les plus occidentalistes et en même temps les plus éloignés des valeurs du libéralisme pluraliste démocratique tel que nous le pratiquons en Occident.
Ils ne sont d'ailleurs pas favorables à la demande d'adhésion à l'Union
d'adhésion. Européenne. Et qu'à l'inverse, les islamistes dits modérés assument parfaitement assume globalement nos valeurs en matière de pluralisme démocratique et s'en servent comme d'un levier pour, en réalité, éloigner quelque peu la Turquie de ses ancrages occidentaux traditionnels. Donc on a énormément de mal à comprendre.
Oui.
Et j'ai l'impression, ça me fait toujours penser à My Fair Lady, cette histoire. Pas à My Fair Lady, enfin à la phrase de Bernard Shaw, vous savez, qui ont proposé une une aristocrate de grande beauté et de peu d'esprit lui proposait de faire un enfant avec lui et lui disait s'il avait votre esprit et ma beauté, ce serait formidable. Et Bernard Shaw répondait, mais imaginez la catastrophe si c'était l'inverse. Mm-hmm. Bernard Shaw était fort laid. Et là, j'ai l'impression que le risque que nous avons, c'est celui d'une synthèse qui serait assez redoutable. Moi, je suis un grand admirateur d'Erdogan. Je trouve que ce qu'il a fait depuis le début, je n'aime pas du tout l'idée de l'Occident imposé par les militaires, etc. Je crois que c'est pas bon de brutaliser des sociétés. Et je crois que le fait de faire respirer démocratiquement la société turque et lui faire accéder, non pas à un islamisme modéré, mais à une démocratie islamique, elle, modérée, la démocratie étant modérée, c'est une très bonne chose, même si ça se déplace actuellement. Mais ce que je crains, c'est, comme dans l'histoire de Bernard Shaw, qu'on arrive à un point qui serait le pire. C'est-à-dire qu'on aurait à la fois le nationalisme des kémalistes et l'islamisme de l'AKP, alors que notre rêve serait exactement l'inverse, serait de concilier la démocratie, le mouvement démocratique qui a été porté par l'AKP avec l'occidentalisme du kémalisme. Et je me demande si, quand je parle de rupture, si on n'a pas une sorte de précipité aujourd'hui, de caractère chimique, si vous voulez, entre ces deux valeurs négatives, et s'il n'y a pas là un risque important. Mais c'est une hypothèse que je formule, car je ne voudrais pas du tout que vous preniez mes propos pour des affirmations tranchées. Je suis très sensible à ce qu'a fait Erdogan depuis des années. Je crois que l'évolution de la société turque a été à bien des égards est allée dans le sens d'une respiration, d'un assouplissement, d'une réconciliation de la société turque avec son État, qui était vraiment fort bienvenu. Mais en revanche, je sens depuis quelque temps ce risque de précipiter dans le mauvais sens.
Jean-Louis Bourlange devient un erdoganiste modéré. François Bujon,
on peut dire que le pire n'est pas toujours sûr, et qu'effectivement, il n'est pas sûr que nous ayons le pire de chacune de ces résultantes. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement un peu troublantes ces derniers temps, je reconnais. La volonté manifeste de la Turquie de jouer un rôle diplomatique important s'accompagne, par exemple, de son entrée dans le camp des Amis de l'Iran. Or, le camp des Amis de l'Iran, il est quand même assez mal fréquenté dans l'ensemble. On y retrouve pêle-mêle M. Chavez, M. Gaddafi, Raoul Castro. Enfin, c'est assez particulier. C'est
assez particulier. Oui, M. Karzai.
Il a la rigueur. Oui, mais faisons la part des choses. Il s'agit de déployer une nouvelle diplomatie et au fond, face à ce pays de 75 millions d'habitants qu'est la Turquie, ce pays de bientôt 80 millions d'habitants qu'est l'Iran, est une autre puissance régionale en puissance. Et il y a des intérêts économiques considérables. Ne l'oublions pas non plus. Monsieur Erdogan est un homme réaliste et c'est un homme à qui l'économie est loin d'être indifférente. Or, l'approvisionnement énergétique de la Turquie, pays de 75 millions d'habitants qui développe son industrie, est évidemment un souci majeur. Il y a des ressources d'hydrocarbures considérables en Iran, de gaz, de pétrole, et la Turquie, ayant conscience de sa situation géographique, voit bien comment elle peut tirer parti à la fois de sa proximité avec l'Iran et de sa proximité avec la Russie et de la soif d'approvisionnement de l'Europe. Donc, elle entretient des relations « at arm's length », comme on dirait aux États-Unis, n'est-ce pas, à bras tendus, avec la Russie, avec l'Iran également. Elle développe le projet de pipeline Nabucco. Elle s'intéresse en même temps au projet South Stream. Elle est dans tous les projets énergétiques de la région. Donc, il faut garder tout cela à l'esprit, parce que dans ce qui apparaît comme une espèce d'enthousiasme de M. Erdogan à voler diplomatiquement au secours de l'Iran, il entre également une très grande part de calculs, qui sont des calculs économiques et des calculs nationaux. Je dis cela pour tempérer le pessimisme de Jean-Louis Bourlange.
L'inquiétude. Apaiser mon inquiétude.
L'inquiétude, que l'on peut comprendre. Mais voilà, il faut garder ce tableau, je crois, et remettre tout cela en perspective. C'est pour ça que je pense que finalement le curseur se déplace, c'est vrai. L'islamisme parfois apparaît plus que la modération, C'est vrai aussi, mais malgré tout, je ne pense pas que la Turquie, pays émergent, pays qui s'occidentalise, qu'on le veuille ou non, tout en s'islamisant, soit prêt à abandonner son ancrage dans le monde occidental. Elle le tempère, elle ne l'abandonne pas.
Vous imaginez quelque chose comme une situation comparable à celle de la Chine, l'islamisme pour maintenir l'ordre et l'économie pour faire évoluer les mœurs.
L'économie fait évoluer les mœurs considérablement. Et n'oubliez pas qu'en faisant évoluer les mœurs, il aide au développement des classes moyennes et que celles-ci sont assez peu portées à l'extrémisme en règle générale.
Max Gallo. Oui, caractériellement et professionnellement, je crois que le pire est souvent sûr, le pire est toujours sûr. Donc je tempère mon propos pour le rendre moins pessimiste, mais je crois qu'on voit les réformes entreprises dans la société par Erdogan, on les voit de manière beaucoup trop positive. Moi je vois une islamisation qui a été signalée par de très nombreux observateurs, voyageurs, intellectuels turcs même, une islamisation de la société qui au contraire prend du terrain à un espace qui était, même par l'armée, laissé libre parce que la laïcité y fonctionnait. On voit par exemple dans les universités où le port du voile était interdit, on voit au contraire ce port du voile se diffuser. Il y a eu un débat parlementaire, je ne sais pas quel a été son résultat, mais enfin, il y a eu une très grande polémique. Les Kurdes continuent à apprécier de manière modérer la politique démocratique de M. Erdogan. Hein. Le PKK et ses adhérents ne sont pas non plus tout à fait de l'avis de l'efficacité de la démocratie.
Je rappelle quand même que le PKK est inscrit sur la liste des partis terroristes par l'Union européenne.
Oui,
n'est pas un pays très démocratique.
Non, mais le Hamas aussi est inscrit sur la liste des pays des mouvements terroristes. Ça n'empêche pas M. Erdogan d'avoir de très bons rapports avec le Hamas.
Plus qu'avec le PKK.
Plus qu'avec le PKK. Donc, je crois qu'il faut être très prudent, et je crains beaucoup, c'est une question cette fois-ci, je crains beaucoup que la politique extérieure pro-islamiste, anti-israélienne, quelles que soient les causes, etc., n'entrons pas dans le détail, menée par Erdogan, ne soit sur le plan de la politique intérieure et du populisme dans les campagnes électorales à venir un atout majeur contre précisément, y compris l'honnêteté, la non-corruption du nouveau leader du parti kémaliste.
François Bujon de l'État.
C'est possible, effectivement. En même temps, n'oublions pas non plus que la Turquie reste membre de l'OTAN, participe à ses opérations, a des troupes en Afghanistan, par exemple, au même titre que la France ou l'Allemagne, et joue un rôle, d'ailleurs, également diplomatique en Afghanistan et au Pakistan. Ça fait également partie de son espace. Donc, elle est quand même fidèle à ses alliances et elle est fidèle à son ancrage, qu'elle ne récuse pas. C'est tout le paradoxe de ces complexités turques. Ce que vous dites est exact. Et c'est vrai que si vous vous promenez dans les rues des villes turques, notamment en dehors d'Istanbul, vous voyez le voile porté très largement et certainement beaucoup plus qu'il y a quelques années. Vous voyez également que Mme Abdullah Gül, l'épouse du président de la République, porte le voile en public, toujours. Chose qui aurait été inconcevable il y a encore quelques années et qui justement fait frémir les militaires kémalistes. Donc il ne fait pas de doute que les signes extérieurs de l'islamisation gagnent dans la population turque. C'est vrai. En même temps, il me semble que le développement économique, la prospérité croissante des classes moyennes constituera un frein assez naturel à cette tendance. Mais ça, c'est une conjecture qui m'est personnelle.
Non, mais je crois que ce que disait Philippe Meyer, pardon de reprendre la parole, à savoir ce modèle politico-économique chinois, c'est peut-être un modèle qui a beaucoup d'avenir et que le national trait d'union islamisme est peut-être la réalité de demain pour un pays qui à la fois tient à affirmer sa singularité, sa liberté d'action dans le domaine international et en même temps trouve le chemin grâce à l'islamisme pour stabiliser cette société en mouvement. Oui. C'est une hypothèse.
Oui, l'analogie a ses limites parce que la vie politique turque est quand même beaucoup plus ouverte que la vie politique chinoise, qui est un pays à partie unique, ne l'oublions pas. Je préfère naviguer sur l'Internet turc que sur l'Internet chinois.
C'est un pays moins confucéen et plus pluraliste.
De nombreuses questions nous restent. Encore un peu le temps. Vous avez rappelé tout à l'heure que le club des Amis de l'Iran n'était pas un club très bien fréquenté. Le seul, quand même, dans ce club qui ait le pouvoir d'embrasser son rival pour mieux l'étouffer, c'est la Turquie.
Oui.
Et dans ce cas, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point la Turquie est un arrangeur de bonne foi ou un arrangeur sincère dans, dans l'affaire iranienne.
L'avenir le dira. Elle a certainement voulu jouer un rôle diplomatique qui était à la mesure de ses ambitions. N'oublions pas, d'ailleurs, nous n'avons pas encore mentionné, mais que la Turquie, cette année, par exemple, est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle aura donc son mot à dire quand viendra au Conseil de sécurité le débat sur de nouvelles sanctions à l'égard de l'Iran.
Oui. Avec le Brésil aussi, c'est quand même intéressant. Avec le Brésil cette émergence aussi. D'état intermédiaire, si je puis dire, entre...
Oui, oui.
Le Nord et le Sud. Et sur l'Europe, on peut dire un mot ?
On peut dire un bref mot, malheureusement.
Oui. Mais... c'est mal parti, ça a été mal conçu, mal organisé, mal négocié. Les négociations ont lieu avec des gens qui ne veulent pas aboutir. Est-ce qu'il y a, sur quelle base peut-on refonder des rapports un peu sereins entre l'Europe et la Turquie ?
François Bujon de l'Étang.
Je dirais qu'ils sont devenus un petit peu plus sereins depuis quelque temps, par rapport à une période aiguë dans la relation franco-turque, par exemple. En 2008, la relation s'est énormément améliorée, et vous observerez que les propos publics français sur le sujet de la candidature turque sont devenus plus mesurés. Nous laissons se développer le processus d'adhésion, mais nous devons tenir compte du fait que les sondages d'opinion montrent très clairement que 78%, je crois, c'est le dernier que j'ai vu, de la population française, par exemple, se dit hostile à l'adhésion de la Turquie. Et la même chose est vraie presque en Allemagne.
François Bujon de l'Étang, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette première thématique de l'été de l'esprit public. La semaine prochaine, nous recevrons Nicole Notat pour parler avec elle de la démocratie sociale. Et dans deux semaines, nous recevrons la démographe Michèle Tribala pour parler avec elle de l'immigration. C'était donc l'esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Jean-Christophe Francis, avec aujourd'hui la technique Bastien Varigaud et Antoine Fortin. Une émission préparée avec Tanguy Blum et Thibaut Rakowski. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission thématique.